Salut les princesses, bienvenue au New Breakfast Club, le magazine culturel, le magazine de pop culture de Radio Collège à Aytré.
Bonjour. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé ici, j'ai l'impression.
Oui, il y avait, je crois,
Mois de février.
Une certaine impatience de la part des auditeurs qui...
Qui pointait, et pourtant le
attendait une nouvelle édition.
Ouais, et pourtant, alors qu'il savait très bien que le thème du jour serait pas spécialement très très agréable, puisque nous allons parler des films qui mettent mal à l'aise, les feel bad movies.
Oui, mais n'y a-t-il pas un plaisir à se faire pleurer, hein,
évidemment,
un plaisir masochiste.
Évidemment que si. Mais avant tout, on va, avant de prendre ce sujet à bras le corps, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ben, on va attaquer avec la nouveauté de la semaine. C'était pas évident de choisir parce que ces jours-ci, c'est plutôt fast. Hein. Il y a beaucoup d'albums qui sortent et pas des moindres. Il y a par exemple un nouveau Tortoise pour ceux qui aiment. Il y a un nouveau Mogwai que j'ai écouté une ou deux fois déjà et qui serait pas loin d'être leur meilleur album. Maximo Park aussi, dont on vous avait déjà parlé ici, vient de
sortir. Déjà le deuxième?
Non, a sorti un album de B-sides et qui, c'est vraiment de très 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 haute tenue, hein. C'est des B-sides qui pourraient plus faire vraiment des façades 45 tours. Et il y a aussi la petite Jenny Lewis. Je sais pas si t'as entendu parler de Jenny Lewis and the Watson Twins.
Je connaissais les Thompson Twins, mais pas les Watson Twins.
C'est un projet, comment dire, fantomatique country,
ouais.
qui évoque facilement Bobby Gentry et Hope Sandoval.
Ah,
sur le papier, ça me plaisait énormément. J'ai écouté ça. C'est malgré tout un petit peu trop tourné vers la country à mon goût et pas assez sur le
fantomatique.
Sur le fantomatique, voilà. Et donc du coup, rien de tout ça, je vais vous parler aujourd'hui de Electric President. Alors pour les introduire, je vais vous lire vite fait le petit papier qu'il y avait dans les Inrocks il y a quelques semaines à leur sujet. Il y a des grains de sable dans la routine pop et c'est normal, les chansons d'Electric President ont grandi sur une plage, mais comme celle des Beach Boys, ces micro-symphonies sont irradiées d'un soleil pâle, chagrin, contrarié par des nuages inquiétants. Je vous propose d'écouter Metal Fingers.
Myself until the tyrants are dead and the patriots are swallowed whole. chance.
Electric President, Metal Fingers, morceau numéro 8 de l'album éponyme, publié par More Music et distribué en France par La Baleine.
Ouais, trip-hop pas mort sur ce, sur ce morceau, non?
Moi, je trouve pas que c'était trip-hop. Non,
le début?
Non, l'introduction. Je sais pas, moi, ça me fait plus penser à des choses qu'on parlait d'Allemagne, off-mic, une fois de plus.
Ouais.
Ça me fait plus penser à des choses comme No Twist, moi,
ouais.
que du trip-hop. C'est beaucoup moins chaud, quoi. C'est vraiment,
Oui, c'est vrai qu'ils sont sur le label More Music, donc, c'est vrai qu'il y a une filiation, évidente avec ces.
Ouais, certainement. Un peu plus de mélodie vocale, peut-être, parce que sinon il n'y en a pas tellement au niveau des arrangements, mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal. L'album dans son entier se tient plutôt. Voilà donc pour cette nouveauté 2006.
Eh bien, un artiste français dans la cover de la semaine, on n'a pas dû en faire beaucoup. Si, on avait fait Lio, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps.
Oui, il n'y a pas si longtemps. Ouais.
Que c'est un artiste français qui n'encombre pas les playlists des radios, Bertrand Betch.
Ouais, et qui semble avoir un petit différent, d'ailleurs, avec notre station locale, l'Apprenton, récemment.
Oui, effectivement, il a dû se produire aux Francopholies, il a dû se montrer un petit peu hautain avec les intervieweurs,
et voilà.
Nos jeunes intervieweurs du collège, et donc il n'a pas eu bonne presse, il n'a pas bonne presse entre ses murs. Donc c'est pas pour ça qu'il fait des mauvais disques, on peut être un artiste tout à fait imbuvable et faire de bons disques. C'est un disque un petit peu inégal dont nous allons écouter un extrait
inférieur au précédent, d'ailleurs.
Il s'appelle BB Sides, où il reprend d'ailleurs Leonard Cohen, Dominique A. Mais c'est pas ces deux artistes-là qui vont être repris sur la cover de la semaine. C'est le grand Phil Spector dans un To Know Him Is To Love Him transformé en To Know A Is To Love A.
Just to while to know.
Ceci n'est pas une critique, mais voilà un maniérisme vocal qui ferait passer Dominica ou Catherine pour Johnny Cash.
Ouais, ouais, c'est assez étonnant, mais tout n'est pas raté, je trouve, dans cette...
Je la trouve plutôt bien fichue. Ouais.
C'est bizarre, en plus, de prendre un des morceaux pas les plus connus. Specter a enregistré ce morceau en 1959 avec les Teddy Bears. Ça doit être un de ses premiers singles, un de ses premières réussites commercialement parlées, mais avant qu'il devienne le magnat de la pop. Adolescente, quoi, le tycoon of teens, comme il fut surnommé par Tom Wolfe. Non, Bertrand Betch, on ne demande qu'à entendre plus.
L'album précédent, La Soupe à la Grimace, où il y avait le simple Passer sous le métro, était vraiment supérieur à celui-ci. Mm. Mais je comprends qu'il puisse. Enfin, je pense que il doit être un petit peu hautain et particulier, il est un petit peu maniéré. Mm. Mais il y a quelque chose.
Ouais, non, il y a. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je sais pas si le morceau de Dominica, La Folie des Hommes, c'est une reprise, mais c'est possible qu'il y ait une vraie communauté d'esprit entre les deux hommes, et même que Dominica ait pu écrire un morceau.
Absolument, là, je peux pas ni confirmer ni infirmer, j'ai pas.
Moi non plus, on demande des informations complémentaires, mais ça vaut le coup peut-être d'y s'y intéresser plus longuement.
Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cure. Extra, extra, read all about it. Extra.
Alors, l'article de la semaine, ce sera une seconde fois un article trouvé sur Internet, ou plutôt une rumeur. Alors, info et intox, à vous de décider.
C'est vrai qu'Internet se prête bien aux rumeurs. Hein.
Voilà, exactement. Colporté par un anonyme. Mais
ça commence bien.
On va quand même lui donner un nom, Jaxi. Qui publie sur un site qui s'appelle recordoftheday.com, et ce fameux Jaxi, dans une langue d'ailleurs assez brillante, a propagé cette nouvelle que Pete Doherty and the Libertines ne sont pas vraiment un groupe de rock, mais sont une imposture décidée par les deux membres fondateurs de KLF, qui s'appellent Bill Drummond et Jimmy Cauty, qui ont décidé de jouer un bon tour à la presse anglo-saxonne, toujours friande de nouvelles sensations et de buzz. Alors,
tu veux dire qu'on serait dans un cas quasi Romain Gary et Émile Ajar?
Oui, absolument. Il s'agit donc de deux authentiques musiciens qui ont eu quelques succès avec la scène proto Manchester, on va dire 1988-1991, un groupe qui s'appelle The KLF. Moi, je me rappelle d'un single qui s'appelait What Time Is Love. Et The KLF ont décidé de prendre un pauvre type dans une boîte qui faisait une vague imitation de Buddy Holly, et d'en faire une véritable star, l'affublant évidemment de l'odeur du scandale, en lui torchant quelques chansons qui permettent de tenir le coup face à la presse anglo-saxonne. Alors, leur plan était en trois parties. D'abord, premièrement,
la troisième étant l'invasion du monde.
Voilà. Le plan était basé sur trois théories. Première théorie, the so-called alternative scene, everybody's too scared of missing the next big thing to worry about anything else. Ce qui signifie que dans la scène alternative anglaise, tout le monde a tellement peur de rater the next big thing, le prochain gros truc.
Du Musical Express en tête. Hein.
Voilà, exactement. Qu'on ne s'intéresse à rien d'autre que justement à cette hype. Donc pour ça, il suffit de parler de concerts explosifs, mais dans des endroits obscurs où personne n'y est allé. Vous pouvez être sûr que les journalistes diront tous qu'ils ont été les premiers à voir ce groupe-là. Deuxième chose, deuxième théorie, we don't care what a person thinks or creates or contributes, we just care about what they do in their normal lives, especially when it's something they shouldn't be doing. Donc, deuxième théorie, la presse ne s'intéresse pas du tout à ce qu'un artiste pense, crée ou fait artistiquement. Elle s'intéresse uniquement à la façon dont elle gère sa vie, surtout quand il s'agisse de manière scandaleuse, quoi. Donc, d'où les succès qui ont émaillé les premiers temps des Libertines, cambriolage maquillé, consommation de drogue à outrance. Bon, ils ont été même dépassés par leur créature, puisque l'affaire avec Kate Moss, il l'avait pas prévu, mais ça, évidemment, c'était la proverbiale cerise sur le gâteau. Hein, à partir du moment où, à côté du mot rockstar, on met boyfriend of Kate Moss, on multiplie par 10 le nombre de journaux vendus. Enfin, troisième théorie. À partir du moment où l'auteur de cette imposture parle de piece of shit, donc on va dire un morceau nul, quoi, hein, on va traduire ça en édulcorant un petit peu. Alors leur troisième théorie, c'est de dire que si un morceau nul est considéré par suffisamment de monde comme comme un lingot d'or, eh bien tout le monde va croire que c'est un lingot d'or. Et pour eux, pour le fameux Jexy dont je parlais tout à l'heure, le point final de cette démonstration, c'est justement la sortie du disque des Baby Shambles. À partir de ce moment-là, ils avaient donné suffisamment de gages et de preuves à tout le monde, parce que, donc, aux yeux de Jexy, il s'agit d'une véritable piece of shit, et
qu'il est pas très bien.
Et ça a été encensé par la critique. Alors, évidemment, sur Internet, beaucoup de gens sont enthousiasmés pour cette information, hein, puisqu'on n'en sait pas plus. Alors, beaucoup disent ouais, bravo, bien réussi. Un mois avant le 1er avril, vous avez réussi à duper votre monde, trop beau pour être vrai. On a vu ça un peu partout. Alors évidemment, je pense qu'il s'agit d'une intox, mais je trouve que la façon dont ça a été mené, je trouve ça assez, l'article est très très brillant, et je trouve ça assez
peu importe réussi. Finalement, au fond, que ça soit vrai ou pas, cette histoire de Pete Doherty et de Libertines, parce qu'en revanche, les trois axes qui sont évoqués pour monter un truc de toute pièce, ils demeurent complètement réels. C'est vraiment comme ça que ça se passe, en Angleterre. Je veux dire, à chaque fois, les buzz partent de ce qu'on appelle l'happy few, c'est-à-dire le peu de gens heureux d'avoir la primauté d'une nouveauté. Et c'est quelque chose qu'on peut pas du tout quantifier ni juger sur pièce. C'est un bruit qui vient. La dernière mode, c'est même carrément de dire que les groupes se créent sur Internet, quoi. Le Arctic Monkeys, c'est vraiment ça. C'est que c'est un phénomène populaire, Internet, tout ça. Quelque chose sur lequel qu'on peut pas quantifier, sur lequel on n'a pas vraiment prise, et c'est une légende qui se nourrit d'elle-même et qui lance le truc. Les derniers groupes qui sont arrivés sont un petit peu nés d'un flou artistique comme ça qu'on nous a vendu comme étant un gage de qualité en tous les cas,
ou comme des créatures créées par les blogs, par
absolument,
les bloggers,
absolument. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, mon cher Sonic, se faire du mal au cinéma, ça peut être effectivement un plaisir, être remué, être secoué, être mis à mal dans ses valeurs morales ou esthétiques, ça peut être effectivement un plaisir. C'est en tous les cas un qu'on partage plutôt de manière sur des supports différents. Moi, davantage dans la sphère fantastique, et toi plutôt
dans la sphère réaliste.
Dans la sphère réaliste, ouais. Et du coup, oui, on s'est dit, bah, faisons un petit sujet sur ce qu'on appelle le feel bad movies, le cinéma qui met mal à l'aise, quoi.
Ouais.
Bah, je sais pas exactement comment tu avais envisagé de présenter les choses, mais moi je comptais nous soumettre un petit panorama du genre, les différents axes qui ont été employés par les cinéastes au cours de ces 30 dernières années. Le phénomène existait déjà auparavant, mais ça s'est vraiment intensifié aux États-Unis après le Vietnam. Il y a une vraie concentration.
Et c'est devenu pratiquement une catégorie dans le film de genre.
Et c'est devenu pratiquement une catégorie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse fasse un petit survol des différents créneaux. Et on fera une pause un petit peu plus longue sur l'un des genres précis, parce que toi, tu vas développer.
Voilà, exactement. Moi, j'aimerais essayer de prouver, là encore, il va y avoir une démonstration, pourquoi Kephir,
les nerfs à vif,
plus le remake d'ailleurs que l'original, le remake de Scorsese, sorti en 1991, est-il pour moi un très bon exemple de... Tu seras d'ailleurs pas forcément d'accord,
mais... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, mais pour part, oui.
Pourquoi Kephir peut-on considérer comme un feel bad movie?
Voilà. Donc on va commencer le petit tour de piste avec je vais pas vous faire un historique en reprenant des les pionniers, parce que finalement des gens comme Buñuel étaient déjà un petit peu dans le créneau.
Oui, hein, exact.
Dès la fin des années 20. Mais on va donc s'attacher à une période un peu plus récente. Je pense qu'historiquement les deux enfin on va en placer trois parce qu'il y a trois genres, les trois axes principaux sont nés de d'Orange Mécanique d'une part, de Stanley Kubrick pour faire court, de Salo et le 120 jours de Sodome de Pasolini, et de Délivrance de John Boorman. Alors je vais commencer avec Délivrance parce que je vais vous parler donc du genre, un des genres rois dans le feel bad movie, qui s'appelle le survival. Le principe du survival en général, c'est une simple chasse à l'homme.
C'est Koh-Lanta?
Non, pas tout à fait. C'est pas une chasse à l'homme non plus comme les chasses du comte Zaroff, qui étaient plutôt naïves. C'est le retour aux instincts primaires de gens civilisés en général, qui se retrouvent dans une situation extrême où ils vont être agressé par autrui ou par la nature, et qui vont dans ces circonstances-là, pour survivre, finir par regagner en animalité et agir de manière extrême aussi. Donc Délivrance est je vous détaillerai pas l'intrigue, mais un exemple majeur dans le genre. La colline à des yeux de Wes Craven repose sur la même chose, c'est-à-dire que c'est une famille américaine bontain qui se retrouve prise aux mains par d'affreux rednecks congénitaux qui vont les agresser de premièrement, et cette famille-là va se rebeller et va se montrer tout aussi cruelle et barbare que ses assaillants. Et un film que tu as vu il y a quelques années déjà, et que j'ai visionné il y a peu moins, c'est Sans Retour, Southern Comfort, de Walter Hill.
Ouais, exact. J'ai dû voir ça en 85-86.
Qui est assez proche de Délivrance. C'est l'histoire d'un contingent de la garde civile qui est en manœuvre en Louisiane et qui se paume dans un bayou, et qui vont se montrer assez inciviques avec les cajuns locaux, même franchement inciviques. Les cajuns en question vont vouloir vont vouloir se venger tout simplement. Et là, ça va être une boucherie, une montée en puissance des deux côtés sur la sauvagerie pour s'en sortir, pour survivre. Et ça met très très vite à mal les principes moraux et des personnages, mais aussi du spectateur, parce qu'il s'agit aussi de savoir se placer. C'est-à-dire que les cajuns qui sont dans un premier temps agressés sont placés en victime, et les militaires seraient plutôt fascisants et complètement irrespectueux. Et au fil du métrage, tout ça se trouble vraiment, et on sait plus où est le bien, où est le mal, et comment on se comporterait dans ces situations-là. Et très vite, on est pas mal angoissé, quoi.
Je crois que tu viens de mettre le doigt sur les deux raisons qui font des feel bad movies des films généralement très intéressants, même à l'intérieur de la cinématographie de grands cinéastes. C'est-à-dire, première chose, on remarque dans les feel bad movies, dès qu'on gratte un petit peu sous le vernis de société, le vernis de civilisation, on retrouve la bête, on retrouve les instincts primitifs de l'homme. Tu as cité Délivrance, c'est aussi vrai pour Southern Comfort. Donc, il y a toujours cet aspect, cette véracité dont on doute assez rarement dans ce type de film, parce que on sent l'homme toujours capable d'aller justement dans ses instincts les plus animaux.
Absolument.
Et puis il y a, excuse-moi, je voulais juste développer le deuxième point. Deuxième chose très très intéressante dans les feel bad movies, finalement la petite différence, et c'est ça qui nous met le plus mal à l'aise, entre l'agresseur et l'agressé.
Oui.
Quand on se rend compte, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure aussi, mais dans les chiens de paille, dans Straw Dogs, celui qui est agressé peut se montrer aussi virulent, aussi violent, aussi sadique que ceux qui ont agressé, qui ont violé sa femme.
Absolument.
Et donc il y a cette frontière, comme tu as dit tout à l'heure, cette frontière très très mince, comme du papier à cigarette, entre le bien
entre les deux,
et le mal, qui rend ces films passionnants, parce que dans n'importe quel des feel bad movies que tu as cité, que tu as peut-être cité, il n'y a pas ce manichéisme qu'on trouve dans des films plus
traditionnels. Ah oui, non, les camps sont pas du tout délimités, ou en tous les cas, si c'est le cas au départ, c'est pour faire tout voler, pour faire voler tout ça en éclats. Tu parlais de Straw Dogs, donc on vient à une des formes les plus extrêmes de ce genre-là, qui est ce qu'on appelle les films de rape and revenge, qui veut dire les films de viol et de revanche. C'est-à-dire que ce sont des, il y a souvent des viols
et de vengeance. Ouais, de revanche, ouais.
Et donc une scène donnée où une femme ou un homme, d'ailleurs ça dépend des cas, est violée et elle ou ses proches ou des témoins vont se charger de d'obtenir réparation de manière en général
sans utiliser les arcanes de la justice, quoi.
Sans utiliser la justice. Et donc un des premiers modèles de ce genre là c'est on l'attend pas spécialement là, c'est La Source de Bergman en 59, qui parle exactement de ça, qui est un film médiéval, qui est un mot qu'on emploie aujourd'hui, où un père a su que sa fille avait été violée puis assassinée, et qui va accueillir les deux violeurs en question, qui lui demandent l'aumône, le gîte et le couvert pour une nuit. Et il va comprendre, une fois qu'il les a chez lui, ce qu'ils ont fait. Et à partir de là, il va échafauder un plan de vengeance qui va être complètement atroce. Et c'est exactement cette trame-là que Wes Craven reprend dans La Dernière Maison sur la Gauche, qui était un film qui avait fait scandale. Et puis, les chiens de paille, on n'est pas complètement éloigné de ça non plus. C'est ce principe de barbarie extrême, sous forme de vengeance, quoi.
Et puis surtout la confusion mentale entre les deux camps, quoi. C'est
qui est encore plus perverse, je crois, d'ailleurs, dans Les Chiens de paille, que j'ai pas revu récemment, parce que je crois me souvenir que Sam Peckinpah induit que la victime, l'épouse de Dustin Hoffman dans le film,
est plus ou moins
finit par prendre plaisir à son propre viol.
Voilà, exactement. Voilà.
Donc là, on pousse vraiment la confusion et le malaise du spectateur à l'extrême.
Ces films-là ont en commun d'être extraordinairement perturbant pour le spectateur. C'est pas du cinéma de confort, et comme on est perturbé, comme on est remis en question, on s'approche d'une vérité philosophiquement parlant plus proche que d'autres types de cinématographie. Moi, c'est pour ça que ça me fascine.
Et justement, à propos de vérité, je vais engager sur le thème que j'appellerais les crimes et les châtiments. C'est les films qui placent un personnage devant ses propres responsabilités de citoyen ou de résistant dans le cas des films de guerre, et savoir jusqu'où ils peuvent aller ou ce qu'ils sont tenus de faire pour survivre ou pour obtenir la vérité, les informations, la justice, des choses de cet ordre-là. Tout de suite après ceci. Bon, une musique bien connue.
Oui, enfin, pas de nos plus jeunes auditeurs, pas des moins de 25 ans en tout cas.
Moi, je trouve que plus que la musique des dossiers de l'écran, donc cette émission d'Antenne 2 à l'époque, c'est surtout la musique de l'Armée des Ombres. La musique de l'Armée des Ombres, elle était composée par Éric de Marsan, sauf ce morceau-là. Il se trouve que c'était Melville avait fait un montage, Jean-Pierre Melville avait fait un montage d'une scène avec cette musique-là. Il lui avait dit, il faut que tu me pondes un truc dans le même genre. Et de Marsan lui dit, c'est pas possible, je vais paraphraser, ça va pas marcher. Et donc la BO est entièrement de Marsan, sauf ce morceau-ci qui s'appelle Spirituals for Orchestra, qui est de Morton Gould.
Chouette anecdote. Ouais.
Et qui pose son le ton, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Et en l'occurrence, l'Armée des Ombres, pas sur pas sur le métrage entier, mais il y a une scène qui pose vraiment problème dans le film, qui est une scène de torture interminable et insoutenable, et qui est livrée par la résistance pour le bien, c'est-à-dire que c'est pour c'est on nous la vend comme étant de la torture pour le bon camp, quoi.
Voilà.
Et moralement, ça pose un vrai problème. Tous les personnages sont écœurés, Lino Ventura en premier, et en tant que spectateur, c'est problématique parce que bon, déjà une scène de torture en temps normal, c'est pas super agréable, mais en l'occurrence, on est censé être du côté du bien et on a
sauf chez Tarantino. Qui justement a essayé
de rendre ça un petit peu plus cool.
Ouais, et justement, c'est ça qui pose d'autres problèmes. Dans Reservoir Dogs, je pense.
Ouais. Et donc, l'Armée des Ombres, on est du côté du bien, mais pour autant, on commet le pire. Comment se positionner? C'est encore une fois l'occasion de d'être bien mal à l'aise. Tout comme les visiteurs, dans les visiteurs de, non pas Jean-Marie Poiret, mais Elia Kazan, que toi tu as vu il y a quelques années.
Oh là là, c'est un film terrible déjà. j'en ai un souvenir particulièrement traumatisant. Donc j'ai vu d'ailleurs à la même époque que South End Comfort en 85-86.
C'était ta période, je me fais du mal.
Dans un ciné-club à Orléans. Et ce qui est particulier, c'est un film déjà où il n'y a pas de musique, uniquement du son diégétique. Et pendant, c'est mon souvenir, mais pendant une heure et quart. Il s'agit simplement d'un ancien du Vietnam qui reçoit deux de ses camarades chez lui pour une réunion informelle d'anciens combattants. Lui a une petite vie rangée, une femme et des enfants, c'est un petit fonctionnaire à Washington, si ça me semble. Et donc il reçoit ses deux camarades qui eux n'ont pas réussi vraiment à se réintégrer dans la société après le conflit. Et là, la tension monte progressivement pour aboutir à une apocalypse de violence dans la dernière demi-heure où eux aussi décident de se venger parce qu'on l'apprend mais très tardivement dans le film qu'en fait James Wood, donc le bon petit gars, les a dénoncés pour des violences commises pendant la guerre et il décide de se venger en violant sa femme et en tabassant son môme. Et donc je te raconte pas le dernier quart d'heure, les derniers 20 minutes, tout ça absolument pas sans musique quoi, et absolument pas dramatisé. Ça a un effet
oui, certainement, oui.
Vraiment impressionnant et évidemment ça avait une signification très très forte quand on sait que Kazan avait été accusé d'avoir dénoncé ses camarades blacklistés parce qu'il avait appartenu au Parti communiste américain et qu'il avait envie de continuer à tourner et pas sous un nom d'emprunt.
Ouais, donc c'est en plus hors de l'écran, ça prend un volume supérieur encore dans le flou, dans le trouble, dans le malaise, quoi.
Ouais, mais le problème de ce film, c'est qu'il est hélas très très difficile à trouver.
Mais il est particulièrement controversé aussi. Ouais, hein, ouais. Je vois qu'il y a deux écoles très tranchées,
souvent,
mais forcément.
Mais comme souvent les films bad movies, Straw Dogs aussi, on a reproché à Peckinpah d'être extraordinairement complaisant, d'avoir une image misogyne de la femme, parce que elle est à moitié consentante. Lorsqu'on met le couteau dans la plaie, ça fait rarement plaisir.
Ouais, ouais, ouais. Et donc viol, Vietnam et malaise, ça nous amène à Outrage de
Brian
De Palma.
Dire, ouais. Pas loin.
Outrage de Brian De Palma, voilà, où un commando au Vietnam se comporte pas très très bien avec les prisonniers vietnamiens, au point que Sean Penn, donc avec quelques-uns de sa troupe, décide de violer une prisonnière et l'autre moitié de la troupe, dont Michael J. Fox, s'y oppose, mais ils parviennent pas à faire grand chose. Et après, vive avec cette responsabilité-là, savoir s'il va les dénoncer, s'il va les... Et c'est là encore, ça allait en dehors de l'écran, non pas sur le fond, mais dans la forme, parce que pendant le tournage, Sean Penn terrorisait littéralement Michael J. Fox et se comportait comme dans le film, pour maintenir cette tension-là. Et le résultat est complètement palpable. Hein. C'est un film qui aussi met très 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 mal à l'aise. Hein.
Ben, on n'imagine pas que ce type de film, ce soit des tournages cool, quoi.
Non,
on n'imagine pas
ouais.
que ce soit ambiance Les Bronzés pour. Pour ce genre de
difficilement.
De films,
et donc alors en restant dans ces histoires de justice, savoir si où est le bien, où est le mal, si on a fait le bien et quelle responsabilité on a à rendre la justice par exemple, on est parmi l'une des thématiques des nerfs à vif de Jack Lee Thompson puis de Martin Scorsese en 91.
Alors comme on va passer pas mal de temps sur ce film et pour que vous soyez pas complètement perdus parce que je vais citer pas mal de personnages, un petit synopsis 6 hein, sur Cape Fear.
Je vous en prie.
Donc sur le remake, je rappelle, il y a quelques petites différences entre les deux dans les professions, dans le temps de prison qu'a fait Max Cady.
Donc dans l'ensemble, c'est identique.
Ouais. Voilà, exactement. On respecte. Il y a même des scènes qui sont quasiment plan par plan un décalque du film de Jackie Thompson. Alors, condamné à 14 années de prison pour viol et voix de fête sur une mineure, Max Cady, joué par Robert De Niro, n'a jamais pardonné à son avocat, Sam Bowden, joué par Nick Nolte, de l'avoir abandonné. Tout au long de sa peine, il s'est employé à discipliner son corps et son esprit, se fixant pour unique but de châtier Bowden et de briser les siens, soit sa femme, Jessica Lange, et sa fille, Danielle, jouée par Juliette Lewis.
Il n'y a pas un chien?
Si, 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 ah, si, il y a un chien.
Je me rassure.
Il y a un chien, on en parle tout à l'heure du chien.
Barbarie sur animal, ça paye.
Quand le film démarre, Max Cady a retrouvé la trace de Samuel Bowden et va minutieusement s'appliquer à faire de sa vie un enfer.
I always thought that for such a lovely river, the name was mystifying, Cape Fear, when the only thing to fear on those enchanted summer nights was that the magic would end and real life would come crashing in.
Musique extraordinaire.
Oui, là encore une musique qui te colle au fond du ciel.
Oh, y a. Générique extraordinaire. Évidemment, là, c'est un peu plus difficile à faire passer à la radio. Générique signé Saul Bass, musique signée Bernard Herrmann. L'ombre.
Autant dire que ça lorgne.
Oui. L'ombre d'Alfred plane sur ce début de Cape Fear, qui n'a pas à rougir d'ailleurs, hein, la comparaison avec les meilleurs films d'Hitchcock. Hein, de mon point de vue, c'est vraiment un très 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 beau début de film. Juste une toute petite anecdote avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai dit, musique signée Bernard Herrmann, c'était la partition originale du premier Cape Fear, celui de Jack Lee Thompson avec Gregory Peck et Robert Mitchum. Et sans doute que Scorsese a trouvé qu'il ne réussirait pas à en avoir de meilleur, donc il a repris la même musique réorchestrée par Elmer Bernstein, auquel Bernstein a adjoint quelques petits fragments de la partition d'Herrmann pour Torn Curtain, le rideau déchiré, que Hitchcock avait refusé comme pas assez moderne, ce qui avait eu le don de fâcher définitivement Herrmann avec Hitch.
C'est John Addison qui avait signé ensuite le rideau déchiré.
Voilà, donc on va arrêter cette petite page d'érudition et on va en arriver à la problématique, au fil rouge. En quoi Cape Fear remplit-il les critères du feel bad movie? Qu'est-ce qui fait naître l'angoisse dans ce film? Alors, l'angoisse naît d'abord d'une confrontation entre une famille all-American, 100% américaine, au contour parfaitement respectable, au contour seulement, la famille Bowden, avec Max Cady, l'incarnation du mal. D'emblée, le spectateur lambda se place du côté des Bowden, des gens apparemment sans histoire sur qui va s'abattre ce fléau. C'est parce qu'il s'en prend au fondement de la famille que Kelly terrorise un très large panel de spectateurs. Ceux, et ils sont nombreux, qui sont attachés, peut-être encore plus aux États-Unis qu'en France, ceux qui sont nombreux à être attachés à la propriété individuelle, au respect de la sphère privée et à la sécurité que procure la cellule familiale. Première violation...
Touche pas à mon break.
Oui. Première violation anxiogène pour le spectateur, la violation du territoire familial. Et ce qui est encore plus inquiétant, sans que cette violation soit manifeste. Kelly rentre chez les Bowden, empoisonne leur toutou et personne n'y voit goutte. Le mal est invisible. Deuxième intrusion, l'intimité des Bowden. Où qu'ils soient, domicile, cinéma, festivités du 4 juillet, école, les Bowden sont épiés, traqués, sans que Cady, qui sait ce que la loi lui permet, ne puisse être appréhendé par la police. L'ex-taulard est le parfait stalker, celui qui joue avec les nerfs de sa proie comme le chat avec la souris. Mais là où Cady fait le plus mal, c'est quand il fait voler en éclats l'harmonie familiale. Cady va agir comme un révélateur. C'est d'ailleurs le sens premier d'Apocalypse. En grec, Apocalypsis signifie la révélation. Parce qu'il mutile atrocement Laurie Davis, jouée par Liana Douglas, la maîtresse de Bowden, Cady va permettre de mettre à jour l'infidélité du mari et la rancune tenace de l'épouse. Mais Cady va encore plus loin, il prend une identité d'emprunt, il parvient à séduire l'adolescente en lui parlant d'Henry Miller et de Livres interdits. Décontenancé par sa fille qui lui échappe et pactise avec l'ennemi, Bowden la frappe. Cady a atteint son but, la famille Bowden implose. Cady, c'est l'apocalypse du mal.
Sam!
Evening, ladies.
You know my husband has a gun.
Not this gun. Is it this gun?
Where is he?
Resting up. Had a long, difficult day. Danielle, I told you, you can't escape your demons just by leaving home.
I didn't. My parents brought me here.
Of course. Where's Sexus?
Back at the house.
Shame. I had hoped we could read aloud from it together.
Well, I memorized some for you.
Did you?
Yeah.
Did you?
Yeah.
Well, I'm impressed. Which part?
The part, you know what part, you know.
I don't think you did your homework.
I did.
What parts were that? The good parts?
Yeah, they were.
Were you a good girl?
I was. I knew you'd follow me here.
And... You know me pretty well, don't you, darling?
Yeah.
You're gonna get to know me a lot better, too. Are you offering me something hot? Let's get something straight here. I spent 14 years in an 8x9 cell surrounded by people who were less than human. My mission in that time was to become more than human. You see?
Granddaddy used to handle snakes in church.
He
Granny drank strychnine.
I guess you could say I had a leg up, genetically speaking.
Il s'agit de, du début de la scène finale de Kéfir, le moment où la violence explose dans une intensité insoutenable, le moment où Kelly, qui a réussi à suivre la famille Bowden jusque dans leur refuge, hein, dans les Everglades, hein, dans une petite rivière, la fameuse rivière Kéfir, eh bien, réussit à se débarrasser de l'avocat et s'apprête à violer la mère, puis la fille, Jessica Lange, puis Juliette Lewis.
Beau programme.
Beau programme. Alors, ce qu'il y a de particulièrement fort dans cette scène, et à part le projet de Caddy, c'est effectivement ce projet de viol familial avec tous les conséquences que ça peut avoir pour le spectateur et toute l'imagination qui peut déborder. Surtout que qui joue la jeune adolescence, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est Juliette Lewis, et qu'elle a un rapport assez ambigu avec Max Caddy, puisqu'elle a accepté un de ses cadeaux, qui était le Plexus d'Henry Miller,
hein, qui est
quand même pas un ouvrage pour jeune fille.
Doigts ou quelque chose comme ça.
Non, mais elle l'embrasse carrément.
Elle
l'embrasse, ouais. Et il se fait passer pour un nouveau professeur de théâtre. Ouais. Ils ont une scène tous les deux dans un théâtre abandonné. Dans un théâtre abandonné, une scène qui, à l'époque, a passé la censure. On se demande bien comment. On n'est pas sûr qu'aujourd'hui Scorsese puisse tourner la même scène, car il faut expliquer qu'à l'époque Juliette Lewis était mineure, hein. Elle avait 15 ans au moment du tournage. Elle en fait pas plus d'ailleurs. Hein. Elle en fait
non,
absolument pas plus. C'est
dans l'emploi.
Une scène très très étonnante. Bon, est-ce que je t'ai convaincu?
Tu m'as un peu plus convaincu. Enfin bon, je l'ai vu plusieurs fois ce film, ouais. Mais je lui accorde pas la même charge de malaise, parce que moi j'y vois davantage des codes très très calibrés du thriller de manière générale. Mmh. Mais en même temps, quand je t'entends présenter les craintes, est-ce que ça peut éveiller chez le spectateur, je l'entends, ça me touche pas moi personnellement, parce que bon, j'ai pas le profil, j'ai pas l'âge des personnages, je ne suis pas propriétaire terrien, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de chien, et voilà, je me sens pas complètement menacé, quoi.
Oui, mais c'est un dénominateur commun de beaucoup de spectateurs.
Bien sûr, mais en revanche, par contre, je suis d'accord avec toi, le fait de faire imploser la famille avant même qu'il agisse, qu'il y ait des tentatives de viol, des tentatives de meurtre, le fait que sa présence et le grain de sel qu'il met dans l'histoire servent de révélateur, ça effectivement c'est plutôt très très intéressant, ouais.
J'aimerais quand même faire un sort aussi à la prestation magistrale de Robert De Niro, parce que si on se sent mal, si on sent véritablement le danger, c'est grâce aussi à la prestation de l'acteur. On le sent capable de faire tout, comme si Scorsese avait juste eu à dire moteur pour que le moteur interne de Niro s'emballe.
Ouais. Bah, être capable de tout, c'est ce que le snuff movie, ou ce qu'on appelle le mondo aussi, nous prétendent faire
dans le mondo.
Alors le mondo, ce sont des films prétendument des reportages sur des cannibales, sur des tribus. C'est un genre italien. Ça s'appelle le mondo à cause du premier, qui devait s'appeler Mondo Cannibal tout simplement, et qui sont des films qui sont prétendument des reportages, c'est-à-dire que l'équipe a vraiment été décimée, on a juste retrouvé les bobines. Enfin bon, c'est des arguments marketing, mais qui sont souvent des films qui mettent très mal à l'aise. Non pas à cause de ce petit théâtre-là qui est plutôt ridicule, mais c'est que pour compenser la faiblesse ou des acteurs ou des effets spéciaux, en revanche, des animaux ils sont massacrés, mais alors régulièrement et avec une complaisance infinie, quoi. Dans le cas de Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato par exemple, le chef op après le tournage a refusé qu'il y ait son nom au générique, a été outré de ce qu'il avait à filmer, mais il se défendait en disant mais sur le coup on avait le nez dessus, on faisait pas gaffe, on se rendait pas compte, et les animaux ils sont bel et bien massacrés pour donner ce sentiment de vérité. C'est-à-dire que on se dit que finalement si ils tranchent des têtes de tortues pour les bouffer en direct, ils ont dû faire pareil avec les gens tout simplement, et c'est donc la perte de repère totale qui crée un vrai malaise, la perversion suprême.
Ce sont pas des films approuvés par Greenpeace.
Non, pas du tout, non. Et la perversion suprême étant de mettre ça en musique de cette manière. Donc les Italiens comme Deodato ou Umberto Lenzi étaient très friands de ce genre de choses-là. Chez les Allemands, on a Jörg Butkereist qui lui faisait des films nécrophiles. Pareil, on sait pas si c'est du snuff, si c'est pas du snuff. Alors le snuff, c'est que c'est en fait des
on n'est pas forcément impatient de les voir.
C'est pas du cinéma, c'est de la réalité. Donc tout ça, c'est vraiment des films qui sont de l'exploitation en général. Ce sont effectivement des montages, mais qui font vraiment perdre les repères du spectateur et qui mettent plutôt mal à l'aise. Et on va terminer, parce qu'on aurait pu en parler encore de nombreux, avec ce que j'appelle les intellos fricos comme freaks.
Ah oui.
Avec des gens comme les barrés David Cronenberg ou Lynch, avec Lars von Trier et puis certains films du Dogme ou enfin des choses de cet ordre-là, pour vous mettre dans l'ambiance de ce que pouvaient être les films de David Cronenberg dans les années 80, même si aujourd'hui ils sont encore chargés de troubles et de malaise facilement. Je vous fais écouter tout de suite un morceau qui s'appelle Bienvenue à Vidéodrome.
Today we are witness to the dawn of a new communications era, brought upon us by satellites, lasers, fiber optics, microprocessors, and magnetic bubbles, for the transfer of information, ideas, knowledge.
Grâce à toi, j'ai mal à mon plombage.
Ouais, c'est vrai, je fais mal au plombage. Alors, David Cronenberg, c'est pas tant le malaise moral, encore qu'il existe, qui est au cœur de son cinéma, mais c'est son grand projet de la nouvelle chair. C'est-à-dire qu'avec des films comme Frisson 74, Rage en 77, Chromosome 3, Vidéodrome, donc Faux Semblant, mais aussi Crash, son grand sujet de prédilection pendant très longtemps, c'était la mutation physique, c'était le corps qui prend le pouvoir sur l'esprit.
Et la mouche aussi.
Et la mouche aussi, bien évidemment, Le corps qui prend le pouvoir sur l'esprit et les mutations, la transformation physique que ça engendre. Et ces films sont l'occasion de nombreux moments de malaise. Hein. C'est-à-dire qu'on peut très facilement avoir l'impression qu'on a une main qui plonge dans le ventre ou qu'on vous branche un joystick dans le dos ou des choses comme ça. Et qui sont l'occasion de pas très bien réagir. Mais c'est une thématique qui est très 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 intéressante. Chez David Lynch, c'est... différent sans l'être vraiment, hein, des cauchemars comme Eraserhead. Je sais pas si t'as eu l'occasion de voir ce film.
Non, hélas.
Le premier qui est quand même un supplice. Hein. Mais même Blue Velvet ou Lost Highway,
le film qu'on voit pas deux fois. Eraserhead.
C'est difficilement. Ouais. des films comme Blue Velvet ou Lost Highway, sont d'ailleurs pas si loin de Cape Fear finalement. C'est-à-dire qu'il y a la façade proprette de l'American Way of Life et les démons internes qui là sont particulièrement retors et chiadés chez David Lynch. Voilà, bon, j'aurais pu encore vous parler de plein de gens. Je vous avais évoqué Pasolini, ce que je n'ai pas fait finalement dans le détail, mais il y a vraiment beaucoup beaucoup de monde. Il y a Requiem for a Dream aussi qui m'a mis très très mal à l'aise.
Ou même d'autres films de Bergman.
D'autres films de Bergman.
Je pensais La Honte, Le Silence, c'est pas exactement des
Ah non, non, cool, hein. Bien sûr, non. Les satiristes et les extrémistes italiens de la fin des années 70, Marco Ferreri avec La Dernière Femme, ou même La Grande Bouffe qui est truculent d'un côté mais qui est vraiment aussi difficile et sordide de l'autre. Tout ça, c'est des gens qui savent vous mettre bien, bien, bien mal à l'aise, et finalement, on aime plutôt ça.
Ouais.
On va finir plus légèrement, hein, malgré tout, avec un petit jeu.
Bah oui, bien sûr.
Il se trouve que cette semaine, c'est à toi de deviner ce que je vais te proposer. Ça change, enfin, c'est pas que ça change un peu, c'est une semaine sur l'autre. Ces derniers temps, tu m'avais donné pas mal de fil à retordre, hein, je trouve. Moi, là, je suis plutôt sympa, ça devrait aller tout seul. Essaye donc de me mettre un nom là-dessus.
Bon, on est parti. Que je connais.
Where have you been, my darling? Where have you been, my friend?
Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est super bien. Ça.
Where have you been, my darling? Where
au refrain, tu vas t'en sortir.
Isabel Campbell et Mark Lanegan.
Oui, absolument.
Ah, j'ai mis un peu trop de
the
temps.
The False Husband sur l'album Ballad of the Broken Sea.
Tu sais qui je pensais au début? Tu sais, je pensais à Nick Cave.
Tu pensais à Nick Cave?
Ouais.
Oui,
bah je pensais que lorsqu'il y avait que lui, je pensais. Et heureusement, ouais, c'est effectivement c'est la voix d'Isabel Campbell qui me sauve la mise, mais j'étais un peu long quand même.
Donc c'est une nouveauté cet album. Isabel Campbell, une ancienne de Belle et Sébastien, et Mark Lanegan, un ancien de Screaming Trees et des Queen of the Stone Age, pour un album de duo que je trouve rudement bien fichu et qui, dans ses meilleurs moments comme celui présentement, rappelle vraiment le travail de Lee Hazelwood avec Nancy Sinatra. Je crois que t'es pas aussi fan que moi de ce disque, hein. Ou alors tu l'as peu écouté. Mais
non,
quand,
effectivement, quand... c'est peut-être le côté un peu Americana que je trouve quand même présent avec la guitare. Mais bon, tu nous rappelles quand même le titre de l'album.
Ballad of the Broken Seas, Mark Lanegan et Isabel Campbell.
On va y jeter une oreille quand même plus qu'attentive. Il va falloir se dire au revoir.
Oui, c'est fini pour cette fois-ci. Bah, je vous conseille de foncer dans vos vidéoclubs et de vous louer quelques DVD qu'on a pu vous évoquer. Et puis sinon, cherchez par vous-même. Hein, y en a vraiment un bon paquet. Et,
j'espère qu'on vous aura donné envie de
un
vous faire
peu,
peur.
Ouais. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais plus le thème, toi non plus, mais on saura quoi en faire. À tout
bien sûr.